Louer et remercier soit le Seigneur de nous, de ce que nous pouvons chanter, croire et expérimenter. Que la parole de Dieu est encore aujourd'hui vraie et que Dieu se tient sur tout ce qu'il a dit, sur tout ce qu'il a promis. Le ciel et la terre peuvent brûler, les collines et les montagnes peuvent disparaître. Mais celui qui croit trouvera que la parole de Dieu demeure vraie éternellement. De son côté, Dieu ne peut pas rompre l'alliance si elle ne peut pas encore entrer en vigueur. Cela ne dépend pas. Cela dépend donc de nous et non de Dieu. Il a fait une nouvelle alliance valable avec nous à Golgotha. Et comme nous l'avons déjà entendu dans la parole d'introduction, c'est précisément ce qui s'est passé à Golgotha qui est une folie pour l'humanité. Le sage pose la question, oui, pourquoi? Pourquoi la crucifixion? Pourquoi la souffrance? Pourquoi tout cela? Pourquoi l'effusion du sang, de sang? Pourquoi y a-t-il là le salut? Pourquoi c'est justement là qu'est continué le salut, la réconciliation et la vie? L'homme non croyant pose plus de questions qu'il n'obtient de réponses, qu'il ne peut obtenir de réponses. Le croyant, lui, accepte ce que Dieu a déterminé comme quelque chose qui lui est déjà donné et il remercie le Seigneur pour ça, sans se poser de questions. Pourquoi? Si on nous demandait, à nous qui croyons, comment est-ce que nous croyons? Comment nous faisons pour croire? Nous allons répondre tout simplement. C'est par la glorieuse proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. C'est d'elle que notre foi est venue. La glorieuse proclamation de l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. J'ai écouté le témoignage de Frère Branham cet après-midi et il y a mentionné qu'il avait été soudainement appelé à parler quelque part et qu'il devait se présenter devant le microphone. Et il a dit qu'il ne s'était jamais tenu devant un microphone auparavant et qu'il ne savait pas comment cela pouvait se passer correctement. Vous savez qu'il a été un homme si humble, si simple, mais un homme selon le cœur de Dieu. Le plus grand ministère qui a été exécuté sur terre depuis les jours du Seigneur a vraiment eu lieu dans notre génération. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Et si quelqu'un veut en débattre, qu'il choisisse les scribes et les pharisiens pour, mais pas les croyants. Les croyants ne discutent pas de ce que Dieu fait. Les croyants en profitent de ce que Dieu fait. C'est une grande différence. Et les autres en discutent en fait en le mettant de côté, mais les autres profitent et remercient Dieu. Les croyants donc profitent et remercient Dieu du fond du cœur. Et nous pouvons aussi en faire partie par grâce. Récemment, j'ai parlé quelque part et on m'a demandé combien de personnes avaient vécu le ministère de Frère Branham. Et j'ai répondu, oui, je veux dire, j'étais assis parmi 16 000 personnes à l'époque de son temps et je ne sais pas combien en ont vraiment profité. Je peux dire une chose, moi j'en ai profité. Et depuis lors, des dizaines de milliers de personnes dans le monde entier en ont profité. Nous sommes aussi également très reconnaissants au Seigneur du fait qu'après le retour à la maison de Frère Branham, Dieu, lui, n'est pas reparti à la maison. Donc après le décès du frère Branham, Dieu lui n'est pas rentré à la maison. La parole n'a pas été enlevée. Au contraire, comme cela a toujours été le cas, il en est de même maintenant. Le Seigneur prend ses serviteurs et ses messagers lorsque leur ministère est terminé. Mais la parole révélée et prononcée par eux est restée pour son peuple et elle est devenue notre nourriture. On m'a également demandé si le ministère ne devait pas se poursuivre de la même manière. Sur ce ministère de Frère Branham ne devait pas se poursuivre de la même manière. Non, il ne s'agit pas d'une imitation du ministère de Frère Branham. Il s'agit de reconnaître à partir de l'Écriture ce qui devrait être, ce qui devait être fait par son ministère. Quelle était la signification de ce ministère prophétique dans l'histoire du salut? Et ensuite, nous l'entendons témoigner lui-même. Il lui a été dit, ne voyage plus comme évangéliste, mais reste ici et emmagasine la nourriture. Vous connaissez tous les prédications dans lesquelles il a parlé de cela et de ces choses. Notre tâche n'est pas d'imiter son ministère, mais de porter la parole révélée par Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Car le Seigneur ne peut pas revenir avant. Il faut d'abord que le temps soit accompli et que la tâche que Dieu a confiée à l'Église à la fin des temps soit exécutée. Non pas un évangile, mais l'évangile du royaume de Dieu. Cet évangile-là doit être prêché à toutes les nations. On entend dire avec quelle légèreté les évangélistes traitent également le passage biblique de Matthieu 24 au verset 14. Ils le contournent, ils s'en détournent. Ils en ont fait une sorte d'évangile arrangé, fabriqué, et pense que c'est l'accomplissement de Matthieu 24, 14. Non, l'évangile qui doit être prêché pour un témoignage n'est pas un quelconque évangile d'un évangéliste, mais il s'agit de cet évangile, le même évangile du royaume de Dieu, le plein évangile qui contient et inclut tout ce qui appartient au royaume de Dieu. Dans l'Apocalypse, il est en effet annoncé comme l'évangile éternellement valable. Il est donc évoqué ainsi. L'évangile éternel, l'évangile valable éternellement, cet évangile éternel doit être annoncé à tous les peuples, à toutes les nations, à toutes les langues. Et il doit s'agir du même évangile que celui prêché par nos frères eux-mêmes au commencement, dont Paul lui-même pouvait dire, « Même si un ange descendait du ciel et vous annonçait un autre évangile, qu'il soit maudit. » Il y a des multitudes d'évangiles, de sortes d'évangiles, mais un seul évangile de Dieu, un seul évangile de Jésus-Christ, un seul plein d'évangile et véritable évangile. Il n'y en a qu'un seul. Et c'est ce que Dieu a placé sur le chandelier, a mis en lumière à notre époque. Comme il est beau que nous puissions croire comme les apôtres croyaient, que nous puissions annoncer la même chose qu'ils ont annoncé, les mêmes choses que ce qu'ils ont annoncé et que nous ayons ainsi la possibilité de vérifier si ce que nous prêchons est vrai, et ce n'est vrai que si cela correspond aux Saintes Écritures, c'est conforme, c'est en accord avec les Saintes Écritures. Ici, les sentiments ne jouent aucun rôle. Certains ont des sentiments, Cela doit être vrai. Et cela ne l'est que si cela est en accord avec Dieu et avec la parole de Dieu. Là aussi, nous nous sommes donné la peine de vérifier et de rechercher, de sonder dans l'Écriture de manière tout à fait réelle et avec toute la sincérité que Dieu peut mettre dans le cœur d'un homme. Nous avons sondé les Écritures et examiné avec les Écritures si cela est juste. Et nous avons constaté par la grâce de Dieu qu'il en était ainsi, que c'était conforme aux Écritures, que la voie de Dieu, le chemin de Dieu a été annoncé avec véracité et que l'Évangile était le véritable Évangile de Jésus-Christ. Est le véritable Évangile de Jésus-Christ. Vous savez que Paul écrit aussi aux Corinthiens dans 2 Corinthiens chapitre 11 au sujet des personnes qui annoncent un autre évangile, qui proclament un autre Christ et qui ont reçu par cela un autre esprit. Ces trois choses, ils sont énumérées là-bas. Et vous le savez bien, ce que l'on fait de Christ, il n'est plus celui que Paul et tous les autres voyaient. On fait de lui une sorte de deuxième personne. Non, il est Dieu lui-même manifesté sous une forme humaine. Il est le Seigneur, il est le roi des rois, comme fils de Dieu manifesté dans la chair, mais en esprit manifesté avec puissance. Il a vaincu la mort et a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Il est vraiment important. Et ce qui compte, c'est que le même évangile, le même Jésus-Christ de Nazareth soit prêché. Et cela ne peut se faire que là où le même Saint-Esprit le révèle. Dieu parle toujours un seul langage. Il ne se contredira jamais. Ce sera toujours exactement en accord, conforme aux Écritures. Dans ce qui nous a été lu, beaucoup de choses nous ont déjà été dites. Je n'ai pas de thème particulier pour ce week-end, mais les Saintes Écritures sont pleines de trésors de Dieu, de pierres précieuses. Oh, que nous mangions chaque parole, que nous la prenions en nous, que nous soyons reconnaissants, qu'elle soit si fraîchement révélée du trône de Dieu lui-même, et que ce n'est pas une lettre morte qui est interprétée, mais une parole vivante révélée par Dieu. Je voudrais lire le verset 17, du verset 18, il a été lu. Je voudrais ajouter le verset 17 ici. Il est écrit 1 Corinthiens 1, verset 17. En effet, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer le message du salut. Non pas avec une grande éloquence, afin que la croix du Christ ne soit pas vidée de sa substance. Il existe toute une communauté de foi qui nie totalement et totalement que le Christ a été crucifié. Oui, une très grande communauté même. Il nie qu'il ait été sur la croix, qu'il ait jamais été sur la croix. Il parle, il nie qu'il a été sur la croix. Il parle d'un poteau et ont ensuite ajouté leur propre interprétation. S'il est écrit ici de la croix, nous le croyons tel qu'il est écrit. Il a été crucifié sur une croix, pas sur un poteau. Je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises lors de réunions d'évangélisation. Je suis reconnaissant au Seigneur de ne pas être mort les mains jointes, mais d'avoir ouvert ses bras et d'avoir voulu dire à un monde perdu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Déjà pour cela, il fallait que ses bras soient étendus vers le monde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du rafraîchissement. Je suis très reconnaissant à Dieu que mon Seigneur soit mort ainsi. Il m'accueille, il t'accueille, il te reçoit, il me reçoit, il veut te dire ainsi, viens à moi, regarde-moi ainsi, car c'est ainsi que je t'ai racheté lorsque j'étais suspendu à la croix. Nous ne prêchons pas seulement, nous ne faisons pas que prêcher le Christ, nous prêchons le Christ crucifié. Et cela prend une véritable signification. Lorsque nous le voyons réellement suspendu entre ciel et terre, là, sur la croix, et que nous l'écoutons parler au premier homme qu'il a invoqué en disant, « Seigneur, souviens-toi de moi quand je viendrai, quand tu viendras dans ton royaume. » Et que dit notre Seigneur, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Lorsque le compositeur chante, celui qui par la foi voit Jésus sur la croix sera sauvé à la même heure. C'est alors vrai. Regarde Jésus. Regarde à Jésus comme le crucifié. Comme celui dont les mains et les pieds ont été transpercés. Comme celui qui accueille le monde entier. Venez à moi. C'est ce que Paul a voulu exprimer ici en développant cette pensée. Nous ne prêchons pas seulement Christ, mais Christ comme crucifié, comme celui qui a donné sa vie pour nous. Chers frères et sœurs, chers amis, nous n'avons vraiment pas manqué cela en ce qui concerne l'enseignement. Nous n'avons vraiment pas eu de manquement en ce qui concerne l'enseignement. Nous n'avons rien mis de côté. Au contraire, c'est comme une pluie qui s'est abattue sur nous. L'enseignement a été comme une pluie qui s'est abattue sur nous, parfois d'une manière très violente, que Dieu nous a donné. Enseignement sur enseignement, révélation après révélation, une insération, initiation au mystère de Dieu, comme seul l'Esprit de Dieu peut le faire. Peut-être que Dieu a-t-il placé cette parole au début de cette réunion, de ces réunions aujourd'hui, afin que nous voyions notre Seigneur de nouveau comme le crucifié, que nous le vivions de nouveau comme le crucifié et que nous l'expérimentions de nouveau comme le crucifié, en sachant que nous avons été crucifiés avec lui en étant conscients, afin que désormais nous ne vivions plus nous-mêmes, mais que Christ lui-même puisse vivre sa vie en nous et par nous. Car c'est bien ce que signifie la crucifixion. Non seulement la rédemption, mais l'homme racheté par Dieu a été crucifié avec lui, a été enseveli avec lui et est ressuscité avec Christ pour une vie nouvelle, pour marcher en nouveauté de vie. Et c'est ainsi que Paul a pu dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ lui-même qui vit en moi. Et ce que je vis encore maintenant dans la chair, je le vis dans la foi du Fils de Dieu. Dieu veut nous donner cela dans la réalité, que cela ne reste pas seulement une contemplation, donc une observation, mais que la foi vienne de la prédication et que la foi nous relie à Dieu et que nous puissions faire notre expérience très personnelle avec Dieu lui-même. Car c'est bien à cela que sert la prédication. Lorsque Paul déclare ici, au verset 18, « Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, pour nous, elle est la puissance de Dieu. » Cela est vraiment vrai encore jusqu'à aujourd'hui. aux gens perdus qui ne veulent pas entendre parler de salut, vous savez ce qu'ils font? Ils accrochent des croix à leur collier. Hommes et femmes, on le voit depuis peu dans tous les pays, c'est devenu tellement populaire. Oui, ils accrochent là le bimbe lottery autour d'eux, puis une croix pend ici pour dire en quelque sorte, oui, nous sommes chrétiens. Non, ce n'est pas possible. Une telle croix ne dit rien du tout. Elle ne te fait pas chrétien. Il s'agit ici de la croix de Golgotha et du Christ crucifié. La fréquence à laquelle on voit la croix extérieurement n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'elle soit intérieure. Je vous l'ai déjà raconté ici lorsque j'étais assise en vol à côté d'une nonne âgée, d'une religieuse. Cela n'arrive pas toujours. Je prends beaucoup l'avion et j'ai déjà rencontré des gens. Mais avant que l'avion ne décolle, quand on a dit « nous sommes prêts à décoller », elle a fait le signe de la croix très rapidement. Et je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça. « Oui, dit-elle, je me suis béni. » Et je n'ai pu que répondre « oui, je n'en suis pas encore là pour me bénir moi-même, de pouvoir me bénir moi-même. Je suis pas, mais moi, c'est Dieu qui m'a béni. » Vous voyez de quoi il s'agit. Les gens pensent que maintenant, ils se sont bénis. Oui, je n'ai pas encore rencontré de personne qui puisse se bénir lui-même. Ou bien elle-même, une personne, elle-même. Avec n'importe quel signe, aucun homme ne peut se bénir lui-même. Et si le prêtre pense qu'il peut bénir par n'importe quel signe, ce n'est pas vrai non plus. La bénédiction vient uniquement du Dieu Tout-Puissant. Tout le reste passe à côté de Dieu. Dieu a dit à Abraham, « Je te bénirai et tu seras une bénédiction. » Et par grâce, nous pouvons nous aussi être la semence spirituelle d'Abraham. Nous pouvons être les bénis du Seigneur. Nous n'avons pas besoin de nous bénir nous-mêmes. Nous pouvons être les bénis du Seigneur. N'êtes-vous pas reconnaissant à Dieu de nous avoir ouvert aussi les yeux, de nous avoir permis de voir? Nous avons également entendu parler de la lumière, n'est-ce pas? Paul a vu la lumière comme Saul. La lumière vive l'a d'abord ébloui. Il est tombé à terre. Mais ensuite, il s'est relevé et on lui a imposé les mains. C'est alors que tout a commencé. Puis vint l'illumination divine. Puis vint la révélation divine. Et le Seigneur lui parla. Bien-aimés, il en va parfois de même pour nous lorsque nous annonçons la parole révélée qui brille comme une lumière éclatante dans un lieu sombre, obscur. Il peut alors arriver qu'elle éblouisse d'abord l'un ou l'autre quand il regarde directement en fait dans la lumière. La lumière n'est pas donnée pour regarder dans la lumière. La lumière doit être une lumière sur notre chemin. Elle doit éclairer le chemin que nous avons à suivre, à parcourir. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. Ne marchez pas contre la lumière. Marchez dans la lumière. Regardez à ce qu'elle éclaire, à ce qu'elle éclaircit, à ce qu'elle illumine, à ce qu'elle illumine. Donc, marchez dans la lumière, avec la lumière, afin que nous devenions des enfants de lumière. Et la parole dit que celui qui marche dans la lumière ne se heurte pas, ne trébuche pas. Et si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion et nous avons communion les uns avec les autres. Une communion divine. Et alors, nous ne connaissons plus personne selon la chair, mais selon l'esprit. Nous considérons alors ce que Dieu a fait en nous et en notre faveur par grâce. Au verset 25, nous avons en effet lu en même temps, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Les hommes se sont fertilisés avec sagesse et ils se croient encore sages aujourd'hui. Et parfois, en parcourant l'histoire, je me demande qui a déclaré ces sages comme tels. Qui leur a dit qu'ils sont sages? Qui a réussi à leur donner cette note de sagesse particulière? Qui? Car si l'on considère leur sagesse à la lumière de Dieu, ce n'était rien d'autre que de la vraie folie. Aux yeux de Dieu, seul est sage celui qui bénéficie de la sagesse divine. Et Christ a été fait sagesse pour nous, par Dieu. C'est ce que je voudrais vous lire dans le même chapitre. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. C'est donc à lui que vous devez d'être en Jésus-Christ, qui a été fait pour nous sagesse de la part de Dieu, comme aussi justice, sanctification et rédemption, afin que la parole de l'Écriture garde toute sa valeur, que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur. Je ne peux tolérer aucune sagesse qui s'oppose à la sagesse de Dieu. Et tout ce qui remet en question la parole de Dieu ne peut pas m'avoir comme interlocuteur. Je dois donner raison à Dieu et non aux hommes. Dieu garde raison en toutes choses. Parfois, on se rend effectivement ridicule devant les sages de ce monde. Et ils sont sublimes et pensent par eux-mêmes, oui, espérons qu'il n'y a pas trop de ces gens simples. Si la parole suffit, la plupart du temps, ils nous donnent un autre terme. Pas seulement simple, mais ils nous plaignent d'être des gens sans ressources. Eh bien, et Paul écrit, n'est-ce pas? Oui, y a-t-il beaucoup de sages parmi vous, beaucoup de savants, beaucoup de personnalités influentes? Non. Ce qui était fou, ce qui était insensé devant le monde, Dieu l'a choisi pour faire honte aux sages. C'est ce que Dieu a fait alors. Il a fait autrefois et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Dieu ne change pas. Personne ne peut venir à lui pour l'enseigner. Seuls peuvent venir à lui les hommes qui sont prêts à recevoir de lui l'enseignement. Que signifie la parole disciple? Elle signifie, donc disciple veut dire écolier, s'asseoir au pied du Seigneur, prêt à recevoir son enseignement, prêt à apprendre de lui. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ce n'est pas l'un qui devra enseigner l'autre. Si nous y réfléchissons, je crois qu'on m'a dit ici que même dans un séminaire d'une église libre en République fédérale d'Allemagne, trois enseignants ou professeurs nient que Christ soit né d'une vierge. Et cela, c'est vraiment plus que ce qui devrait jamais être permis. Pour nous, la procréation par l'esprit et la naissance virginale sont l'alpha et l'oméga du point de départ de la révélation divine sous forme humaine. Et celui qui touche à cela touche à la rédemption, touche à Dieu lui-même. Car la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Et le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre. Et celui qui naîtra devait être appelé fils du Très-Haut. Serait appelé fils du Très-Haut. C'est encore vrai aujourd'hui. Et si cela s'est vraiment passé, c'est même dans un séminaire d'une église libre, il faut s'imaginer cela. Que l'on nie cela. J'aimerais vraiment rencontrer ces gens une fois. En un clin d'œil, je leur dirais, qu'ils ont totalement raté leur profession. Il y a déjà suffisamment d'incrédulité et d'incrédulité dans le monde. L'incrédulité n'a pas encore besoin d'être portée du podium au peuple. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, que Dieu nous l'accorde une fois de plus, c'est vraiment un réveil envoyé par Dieu pour une fois de plus, pour mettre fin à cette incrédulité et pour fermer la bouche à ceux qui ne peuvent pas parler dans la foi, afin que Dieu puisse lui-même prendre la parole et dire ce qui doit être dit de la part de Dieu, donc de sa part, pour que Dieu puisse faire valoir ses droits parmi son peuple. Le zèle du Seigneur peut donc me consumer lorsque des hommes sont assis quelque part dans le charbon, qu'ils boivent quelques verres et qu'ils disent quelque chose. Ce n'est pas le pire des choses. Mais si cela remonte jusqu'en haut et que l'incrédulité se propage de la chair, où sommes-nous donc arrivés dans le pays de la réformation? L'Écriture sainte parle de cette grande apostasie qui viendra et les gens s'entasseraient des enseignants qui diraient ce qui les démange, ce qu'ils veulent entendre. Dieu merci, il y a encore des enseignants qui ont gardé l'enseignement divin dans sa forme originelle et qui instruisent le peuple de Dieu depuis le trône de Dieu lui-même. Et je prie Dieu de faire en sorte que d'ici peu, ces vérités fondamentales de l'Écriture, des Saintes Écritures, ne soient pas seulement placées sur le chandelier et mises en lumière, mais je souhaite que Dieu s'y engage, s'y confesse, qu'il témoigne, qu'il en est ainsi. Pour moi, Dieu n'a pas besoin de confirmer sa parole. De toute façon, je la crois de tout cœur. Mais pour ceux qui ne peuvent pas croire, ce serait un soutien utile de voir que Dieu est avec nous. S'ils voyaient que Dieu était avec nous et que nous n'avons pas besoin d'un enseignement, mais de l'enseignement de Dieu. Nous n'avons pas seulement un enseignement, mais nous avons l'enseignement de Dieu. Il est dit de l'apôtre Paul qu'il s'étonnait de l'enseignement. Les gens s'étonnaient de l'enseignement du Seigneur, non pas de l'enseignement de l'apôtre Paul, mais de l'enseignement du Seigneur, de l'enseignement de Dieu. C'est l'évangile de Dieu. C'est ainsi ce que dit la Bible. Nous avons le terme d'évangile de Dieu, le terme d'évangile de Jésus-Christ. Alors Paul aussi dit, selon mon évangile, il était devenu une partie de l'évangile. Il ne s'est pas contenté de prêcher. Il l'a vécu, il a expérimenté lui-même ce qu'il a prêché. Les sages et les intelligents passent à côté. Pour eux, Christ est une folie du début à la fin. Du début à la fin. Regardez-les tous. Christ est devenu une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Il a été jeté ici et là, rejeté. Et tous les bâtisseurs l'ont effectivement rejeté. Et ils n'ont donc pas de pierre angulaire, en fait. Alors, il est écrit que là où le Seigneur ne bâtit pas la maison, les hommes bâtissent en vain. Pourquoi? Quand la pluie torrentielle arrive et que les vents soufflent, la maison tombe parce qu'elle est construite sur le sable. Christ est pour nous le rocher du salut. Il est la pierre angulaire. Il est la pierre de fait. Il est le premier. Il est la dernière pierre. Il est le premier et il est le dernier. C'est ici que Paul écrit au verset 31, 1 Corinthiens 1, afin que la parole de l'Écriture garde toute sa valeur, que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur, afin qu'aucun homme ne puisse se glorifier devant Dieu. La sagesse divine nous est-elle parvenue? Comment cela s'est-il passé? Christ a été fait sagesse pour nous. La justice divine nous a été parvenue. Nous est-elle parvenue? L'avons-nous reçue? Comment cela s'est-il passé? Il a été fait justice de Dieu pour nous. De quoi veux-tu te glorifier maintenant? De quoi peux-tu? Celui qui veut se glorifie du Seigneur. Ensuite, pour la sanctification. s'il t'a été donné d'être pénétré par la parole de Dieu et d'être sanctifié dans la vérité, par l'esprit de la vérité, qui l'a alors opéré en toi? C'est Christ qui l'a fait en toi, car il a été fait pour nous par Dieu. Sanctification. Donc, il a été fait pour nous. Sagesse, justice et sanctification et rédemption. Il ne manque rien du tout. Tout nous a été donné par grâce en Christ. Je relis volontiers le verset 31 de 1 Corinthiens 1. Afin que la parole de l'Écriture garde toute sa valeur. Que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur. Et que cette écriture conserve sa validité. Que celui qui veut se glorifier dans le Seigneur. Se glorifie dans le Seigneur. C'est tout ce qui nous reste à faire aujourd'hui. Si ce n'est de rendre grâce à Dieu pour ce qui nous a été accordé par Jésus-Christ, par la croix, par la souffrance et la mort. Il a pris notre place et cela devrait traverser la moelle et les os de chacun d'entre nous. En sachant, en étant conscient que cela aurait été ta fin et la mienne. Toi et moi, nous serions exclamés si aucune rédemption n'était venue. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et cela encore à l'heure de la mort. Et ensuite quoi? Et ensuite quoi? Alors nous aurions alors quitté cette terre, séparés de Dieu, abandonnés par Dieu. Mais maintenant, il a pris notre place. Il est entré dans la nature totalement humaine. Il a pris part à la chair et au sang, comme les enfants, pour pouvoir ainsi mourir. Car il ne pouvait pas mourir dans la chair, dans le corps spirituel, dans le corps spirituel. Il devait donc être la partie agissante de Dieu en tant que parole devenue chair. Il devait s'incarner pour pouvoir mourir afin que nous soyons réintégrés dans l'immortalité. Ça, c'est la rédemption. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est le salut. Pas une ou plusieurs actions pieuses, mais une action seule et unique, mais divine, en Jésus-Christ, sur la croix à Golgotha. Cela suffit à quiconque veut être sauvé. Et celui qui a reçu et expérimenté cette action divine peut se passer de toute autre action sacrément de n'importe quelle église. Une seule action divine suffit, à savoir celle qui s'est déroulée à Golgotha. Et celui qui a vécu et expérimenté cela ne se laisse plus traiter par les hommes. C'est Dieu qui l'a traité et alors tout va bien pour lui. Tous ceux qui sont encore traités par des hommes ne sont pas encore venus voir le grand médecin et être traités par lui, le médecin en chef. À quel point pouvons-nous estimer heureux? À quel point pouvons-nous nous estimer heureux? Et comme notre cœur aspire à ce que tous ceux qui viennent sous le coup de la parole de Dieu fassent abstraction de leurs propres actions et œuvres et de toutes les actions pieuses et religieuses et reconnaissent simplement que c'est Dieu lui-même qui a agi pour notre salut, que c'est Dieu lui-même qui a opéré pour notre salut, c'est Dieu lui-même qui s'est réconcilié, qui nous a réconciliés avec lui-même, qui nous a réconciliés avec lui-même. En Israël, j'ai parlé avec un couple très sympathique de la Suisse et je dois avouer honnêtement que j'ai commencé à ma manière habituelle, en supposant que les Suisses sont tous réformés. Et tout à coup, après que j'ai dit pas mal de choses, y compris sur le Vatican et tout ça, la dame me dit soudain, nous sommes aussi catholiques romains. Et vous pouvez vous imaginer, au début, leur cœur s'est un peu affaissé, mais maintenant, le mien s'est affaissé. Et j'ai dit, oui, je ne veux pas m'excuser parce que ce que j'ai dit est vrai. Et avec l'aide de Dieu, j'ai pu tout expliquer encore. Mais ils m'ont dit, Monsieur Frank, que ce ne sont pas des choses qui sauvent, mais ils font que nous aider à atteindre la béatitude. Alors je leur ai dit, ils font que vous retenir et vous distraire. Il n'y a rien qui puisse vous aider. Notre aide vient que du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Malheur aux hommes qui font pour leurs bras un homme ou alors des hommes. Ils seront couverts de honte. Dieu est notre aide. Et celui que Dieu aide est aidé. Et seulement celui-là est aidé. Il faudrait aussi aider ce juif-là qui a voulu me mettre de côté à Engedi, dans ce beau ravin où se trouvait Saül à l'époque. Et David avait coupé le pan de son manteau, la belle grotte d'une des plus belles régions de la mer morte. Cet homme qui donnait l'explication disait ici, il y a 70 millions d'années, ici 70 millions, ici 90 millions d'années. Et je lui ai dit, bien sûr, et est-ce qu'il ne devrait pas aussi penser à ce qu'il y avait eu aussi un déluge? Et il serait possible que certaines choses pouvaient parvenir de cette époque. Et imaginez-vous que ce juif m'a dit, nous nous en tenons aux preuves scientifiques. Nous n'avons pas besoin du conte de fées d'un Noé et d'un déluge. Ce mot conte de fées m'a traversé jusqu'à la moelle opinière et les os. Et je me suis dit, un juif qui commence chaque sabbat comme il se doit, correctement, Shabbat Shalom, et qui sait exactement que la vaisselle est pour les aliments, la vaisselle pour cela, telle vaisselle pour telle chose, et qui fait tout avec tant de dévotion et ainsi de suite. Et tout d'un coup, on entend dire que ce que la Bible rapporte, il dit que c'est un conte de fées. Il n'y a que peu de croyants, de vrais croyants parmi les juifs comme parmi les nations. Il n'y en a peu. Et à moins que Dieu n'accorde sa grâce, sinon les gens ont toutes les formes de piété qu'il peut y avoir. Et ils pensent ainsi servir Dieu. Et ils ne font que ce qui est écrit quelque part dans le Talmud ou autre chose. Non, nous ne remercierons jamais assez le Seigneur d'avoir ouvert nos yeux, d'avoir ouvert nos cœurs. Et je demande vraiment à tous, surtout à ceux qui viennent d'arriver, s'il vous plaît, ne pensez pas que nous jugeons les autres ou même que nous les regardons de haut. Nous ne le faisons pas. Au contraire, nous souffrons de voir que d'autres ne peuvent pas croire. Que dit Paul dans Romains chapitre 9? Si je pouvais sauver mes frères selon la chair, je serais prêt à être chassé de la communion avec Christ par une malédiction. Le désir de voir les yeux de ses frères, de voir ses frères, les yeux de ses frères s'ouvrir, était si profond dans son âme. Nous ne jugeons pas ici. Je ne sais pas ce que je ferais. Je crois que je ferais tout ce que Dieu me demanderait si je pouvais ainsi devenir une bénédiction pour l'humanité. Mais alors je dois répondre, tout ce que Dieu a pu faire pour donner à l'humanité sa bénédiction éternelle, Dieu l'a déjà fait. Il n'a plus besoin de le faire. Cela me rappelle un frère bien-aimé dont la femme est rentrée un jour chez elle et elle a un décès difficile tout près dans un des pays environnants. Et puis, il a écrit dans la lettre circulaire qu'elle devait tant souffrir pour la réconciliation de l'humanité. Et là, j'ai juste secoué la tête. Je ne savais pas comment le classer. Non, âme, tu n'as rien d'autre à faire que de saisir la grâce pour te laisser sauver et sanctifier par Dieu. Crois-le et tu seras sauvé. Pas ton action, pas ce que tu fais, pas ce que je fais. L'homme est en effet prêt à tout faire, sauf, mais pas à accepter ce que Dieu a fait pour lui. Cela semble très simple, c'est trop simple pour l'homme. Non, bienheureux l'homme qui respecte et accepte la simplicité de Dieu, qui est pourtant si puissante et qui ne se heurte pas à Dieu, ne s'irrite pas contre lui, car comme l'a dit notre Seigneur, béni celui qui ne se met pas en colère contre moi. Il y en a tant qui se mettent en colère contre Dieu. Et bienheureux, béni celui qui ne se met pas en colère contre lui. Béni celui qui ne trébuche pas sur lui, mais qui se redresse par lui et le reconnaît comme la pierre angulaire sur laquelle tout l'édifice est solidement bâti. Tel est le sens de la révélation de Jésus-Christ, notre Seigneur. Non pas poser n'importe quel fondement, mais comme l'a dit Paul, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été déjà posé. Et ce fondement, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais pas un Jésus que les gens portent dans les bras de Marie, qu'il faut vraiment transporter ici et là et suspendre ici ou là, mais un Jésus qui a certes été crucifié dans sa faiblesse, mais qui est ressuscité d'entre les morts le troisième jour dans sa puissance et sa force. En puissance et en force. Non pas un Jésus bébé quelque part dans les bras, mais celui qui est ressuscité, celui qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tant qu'ils ont leur Jésus, je l'ai dit ici aussi, comme l'une de nos dames m'a dit à un endroit, elle m'a dit « J'ai vendu mon Jésus. » Je ne l'oublie pas de toute ma vie à Bad Tölz, dans la conversation. « Oui, j'ai vendu mon Jésus. » Et vous pouvez vous imaginer ce que cela a déclenché en moi sur le moment. J'ai demandé, oui, comme ça, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, ma tête dit, j'ai vendu ce Jésus. Il était grand comme ça, c'est pour ça que je l'ai vendu à l'église, ici et là. Je voulais 20 000, mais l'église m'a donné que 10 000. Elle s'est même plainte de ce que son Jésus lui avait été vendu à trop bon marché. Qu'est-ce qu'un homme peut comprendre? Il pourrait se passer quelque chose en vous que vous le croyez ou pas. Les masses populaires entières passent du temps à l'éternité abruties. Et là, aucun chien ne doit aboyer, personne ne doit ouvrir la bouche et personne ne doit dire stop, ça ne va pas comme ça. Il faut bien que quelque chose soit dit un jour. Avez-vous compris? Mais une fois, il faut que quelque chose soit dit, et seul celui à qui Dieu l'a donné peut le dire. Sinon, nous aurions vraiment peur. Mais nous ne devons pas avoir peur, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Le Seigneur a vaincu le monde. Nous n'avons pas un Jésus fait par les hommes. Un Jésus fait par les hommes. Nous avons le Christ de Dieu, en qui nous avons trouvé la rédemption, la justice, la sanctification, la sagesse, oui, qui est devenu tout cela pour nous par grâce. Non pas un Jésus que nous façonnons, mais un Jésus qui nous façonne, qui nous transforme à son image. Car il est écrit que lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui, 1 Jean 3. Et car nous le verrons tel qu'il est. Serons-nous en quelque sorte de cette taille? Non, non. Nous serons là dans la fleur de notre jeunesse. Pas un évangile fait par fait, pas un Jésus fait, pas un évangile, mais un évangile divin, un salut divin en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et tous ceux qui veulent être sauvés doivent voir Jésus sur la croix. Il n'y a pas de salut qui passe outre la croix, à côté de la croix. Il n'y en a pas. C'est pourquoi la foi en Jésus-Christ est en même temps la foi au Dieu vivant et véritable qui s'est révélé à nous comme sauveur sur terre. Les musulmans nous disent, oui, vous avez cru à un deuxième Dieu. Nous ne croyons pas à un deuxième Dieu. Nous croyons en au seul et unique Dieu vivant, constitué d'une seule personne. Nous croyons que Dieu s'est révélé à l'humanité et que la parole s'est faite chair pour cela. Oh, nous avons un évangile glorieux, un message divin. Et nous aimerions que ces vérités bibliques fondamentales arrivent encore une fois et atteignent tous les peuples pour témoigner, comme témoignage, qu'ils croient ou pas, qu'ils puissent savoir qu'un message prophétique, évangélique et de l'enseignement a été transmis parmi eux. Ici sur cette terre, nous croyons que nous parlons du même esprit qui était dans les prophètes, dans les apôtres, de l'unique et seul Saint-Esprit de Dieu qui fait vivre et révèle la parole encore aujourd'hui. Celui qui aujourd'hui encore convainc du péché et qui aujourd'hui encore glorifie Jésus, qui montre encore aujourd'hui que le prince de ce monde est jugé. Bien-aimés, cette parole, la parole lue ici ce soir, nous suffit pour être sauvés. Aucun d'entre nous n'a besoin d'une seule prédication encore pour être sauvé. Celui qui ne peut pas croire aujourd'hui et qui a le cœur endurci n'a pas besoin d'attendre des temps meilleurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé en toute simplicité et pourtant par sa parole toute puissante. Il n'y a de salut en aucun autre. Et il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes en lequel ils puissent être sauvés. Acte 4, verset 12, en dehors du nom de Jésus. Jésus est mon bonheur à lui seul. Jésus sera mon tout. Alléluia! Pour certains, il est une folie, c'est une folie. D'autres disent aussi ce fils de charpentier. Vous savez, tout ce qui se dit dans le langage populaire. Pour nous, et j'aime le souligner du fond du cœur, Jésus de Nazareth, Emmanuel, est Dieu avec nous. Alléluia! Il n'est pas ce que les hommes font de lui. Il est ce que Dieu a fait à travers lui et à partir de lui. Notre sauveur, notre guérisseur, en lui seul, nous pouvons être sauvés. Que signifie Jésus-Christ pour toi? Que fais-tu avec lui? Avec lui, en tant que crucifié, Permettez-moi d'exprimer une fois de plus cette pensée. Que il n'existe pas de béatification, de possibilité d'être sauvé. Il n'y a pas une voie pour être sauvé qui passe outre la croix de Golgotha. Le chemin de Dieu vers l'humanité passe par Golgotha. Et le chemin de l'humanité vers Dieu passe par Golgotha. Dieu était en Christ. Dieu n'était pas à Jérusalem. Dieu n'était pas à Bethléem. Dieu n'était pas ici ou là. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, verset 19. Par sa mort sur la croix. Ça, c'est l'évangile divin. Acceptez-le pour vous. C'est la puissance de Dieu. C'est un message de salut divin et de bénédiction que nous pouvons annoncer à l'humanité. C'est lui, le Dieu vivant, que nous voulons remercier aujourd'hui de s'être révélé à nous en Christ. Caché aux uns, révélé aux autres. Pour les uns, une offense, un scandale pour les autres, pour le salut et la bénédiction et la félicité et la béatitude. Qu'est-il devenu pour toi s'il ne l'est pas encore devenu? Il veut le devenir ce soir pour toi. Tout ce qu'il est, il veut le devenir pour toi ce soir. Tu peux faire l'expérience du Seigneur personnellement aujourd'hui. Et je le conseille à chacun. Lorsque nous allons prier, ouvrez votre bouche. Invoquez le nom du Seigneur. Car il est écrit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu ne l'invoques pas, tu ne peux pas être sauvé. Tu dois confesser de tes propres lèvres ce que tu crois de ton cœur. Tu dois témoigner de ta propre bouche, témoigner avec des mots, avec des paroles, ce que Dieu a fait en toi. Il faut que la bouche, il faut que cela passe par la bouche, ce qui a rempli ton cœur, cela doit passer par ta bouche. Il n'y a pas de conversation silencieuse. Il n'y a pas de conversion silencieuse. Il n'y a qu'une conversion où les gens reconnaissent leur péché, leur état de perdition, leur état de perdu, voient flotter autour d'eux et au-dessus déjà l'enfer et s'écrient, alors Seigneur, je suis perdu, sauve-moi, aie pitié de moi. Oh Dieu, alors vient le salut et le salut tout court et pur. Si un homme quelconque qui n'est pas dans le besoin appelait au salut, tout le monde secouerait la tête. Mais si quelqu'un est en détresse quelque part, que ce soit en mer, le bateau à moteur s'arrête, il n'y a plus rien à faire. Là, il y a l'écluse et on demande et on démarre le moteur et rien ne vient et on appelle au secours, au secours, au secours. Notre moteur ne fonctionne plus du tout et nous dérivons tout vers ce point en criant Seigneur, sauve-nous au dernier moment. Ce n'est que lorsqu'il remettra le moteur en marche que nous pourrons nager ou naviguer à contre-courant. Dieu veut que tous les hommes soient secourus, sauvés, que tous viennent à la repentance, que toutes les extrémités de la terre soient sauvées, car le salut de Dieu devrait s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous en faisons aussi partie ce soir, que tous ceux qui ont entendu ce message pour la première fois l'acceptent. Ceux qui l'ont déjà entendu auparavant l'acceptent aussi. Ensemble, nous voulons nous approcher du Seigneur et lui demander la grâce, le pardon, la bénédiction et le salut. Et en même temps, le remercier ensuite de nous avoir rachetés par Golgotha, d'avoir versé son sang divin, saint pour nous, afin que nous soyons sauvés et rachetés. Et que cette vie divine qui était dans le sang divin soit revenu sur l'Église, la vie de Dieu lui-même, maintenant, dans la troupe rachetée par le sang, Dieu en Christ, Christ dans l'Église, l'unité divine totale dont il est question dans ces derniers jours. Et nous voulons être un en Dieu, en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Levons-nous adorons. Peut-être sentirons-nous le cœur tel que je suis, tel que je suis sorti de moi. Levons. Tel que je suis sorti de moi. Pas ma force, mais la tienne seule. Ton sang me lave et me purifie de tout péché. Ô agneau de Dieu, je viens. Levons un peu les mains et chantons encore une fois. Tel que je suis sans rien, un à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle, toi, agneau de Dieu, je viens. Alors que nous inclinons la tête, que nous ouvrons nos cœurs à Dieu et que nous nous examinons devant lui, j'aimerais demander qu'est-ce que le Christ est devenu pour vous, pour toi, personnellement, réellement? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Est-ce encore une folie? Ne sais-tu pas encore le situer? Ne sais-tu pas encore ce que tu dois faire de lui? Alors c'est l'heure, c'est le moment, c'est le jour du salut, le jour de la grâce. Aujourd'hui, le salut doit te parvenir, doit être reçu par toi. Aujourd'hui, le Seigneur veut se révéler à toi. Il se tient devant nous comme le crucifié, qui, les mains étendues, veut embrasser le monde entier. Car l'enfer vaincu était derrière lui. Le monde racheté était devant lui. Toi aussi, tu as été racheté. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Accepte-le maintenant, en particulier tous les jeunes, tous ceux qui ont grandi dans un foyer de croyants et qui n'ont jamais fait d'expérience personnelle avec le Seigneur, ou tous ceux qui viennent d'arriver, qui sont nouveaux parmi nous. Dieu veut se révéler à chacun. Que la parole de la croix devienne pour toi, pour chacun individuellement, la puissance de Dieu. Jésus veut ton salut, ta réconciliation, ta justification, ta sanctification, ta rédemption. Il veut être pour toi, tout en tous. Accepte-le donc. Celui qui l'a reçu, celui qui le possède à la vie éternelle, celui qui croit au Fils de Dieu, n'entre pas dans le jugement, mais est passé de la mort à la vie. Acceptez-le maintenant. Recevez-le maintenant. Croyez de tout votre cœur. Croyez de tout votre cœur. Que ce ne soit plus le raisonnement, mais la foi. La réflexion nous donne du fil à retordre, mais la foi nous aide à accepter le Seigneur et à reconnaître l'œuvre de la rédemption accomplie, comme accomplie pour nous. Alors que toutes les têtes sont inclinées et tous les yeux fermés, je voudrais demander s'il y en a ici qui veulent consacrer leur vie au Seigneur aujourd'hui, maintenant. Alors levez la main. Merci, 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 merci. Oh Dieu, béni, je sais que Dieu a béni, je sais que Dieu a parlé, je sais que Dieu est présent. Il est ici pour détruire les œuvres de Satan et pour établir l'œuvre de Dieu. Il est présent. Loué soit son Saint-Nom. Alléluia. Nous chantons encore une fois, tel que je suis, ainsi cela doit être. Tel que je suis, sans rien de moi, sinon ton sang versé pour moi. Ton sang me lave et me purifie du péché entièrement. Ô agneau de Dieu, je viens. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Père céleste, nous croyons de tout cœur ce que dit ta parole et ce dont nous avons témoigné en chantant. Nous ne croyons pas seulement en toi, nous croyons en toi, le crucifié pour nous, celui qui a été cloué à notre place, à la croix, celui qui a été exécuté, condamné et qui est mort pour nous racheter de la mort, du péché et même du pouvoir de la mort et de Satan. Seigneur, tu l'as fait. Tu as vaincu la mort. Tu as triomphé de l'enfer. Tu as écrasé la tête du serpent, du vieux serpent, du serpent ancien. Tu es ressuscité d'entre les morts. Le troisième jour, tu as apparu au tien. Tu es vivant et nous vivons avec toi. Alléluia! 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 Seigneur, nous te remercions pour l'œuvre de rédemption accomplie. Pour nous, la parole de la croix est devenue la puissance de Dieu. Nous n'avons pas pu nous aider, mais toi, tu nous as aidés. Car la parole de la croix est la parole de la rédemption, du pardon, de la grâce et du salut. Oui, de tout ce que Dieu nous a donné, fidèle Seigneur, est une nous avons une profonde reconnaissance de ce que nous pouvons croire, comme le dit l'Écriture. Et je te prie, Seigneur, que nous puissions tous en faire l'expérience ainsi. Dieu fidèle, que nous puissions faire une telle expérience avec toi, que ton esprit puisse rendre témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu, que nous sommes passés de la mort à la vie. Seigneur, je commande que tout doute, toute incrédulité abandonne chacun et que tous se détachent de l'incrédulité et du doute et renoncent à ces choses en disant, Seigneur, Jésus-Christ, je crois en toi, le Sauveur mort pour moi sur la croix. Alléluia! Gloire à Dieu! Seigneur, ce que nous croyons de tout notre cœur, nous en témoignons de notre bouche. Et le diable doit s'éloigner, doit se retirer. Il s'est retiré. sur la croix, il n'a pas de place sur la croix. Et par la croix, autour du crucifié, il a été vaincu. Et celui qui le reconnaît et qui se confesse de cette œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha, se tient sur le sol victorieux de Golgotha. Jésus est vainqueur et nous aussi, nous sommes vainqueurs avec lui, car sa victoire est aussi la nôtre. Et la foi est la victoire qui a vaincu le monde. Alléluia! Gloire et honneur à ton nom merveilleux et saint. Alléluia! Seigneur, je sais que nous verrons du fruit dans l'éternité de cette réunion. Alléluia! 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 Gloire à Dieu!